La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est André Miquel, professeur honoraire et administrateur du Collège de France, ancien administrateur général de la Bibliothèque nationale. Bonjour.
Bonjour.
André Miquel, vous avez publié plusieurs ouvrages ces derniers mois, parmi lesquels « Itinéraire d'un arabisant » chez Odile Jacob, et vous préfacez chez Orient Éditions un très bel ouvrage illustré par des artistes de nombreux pays, « Les fables de La Fontaine en Orient ». Alors André Miquel, j'aimerais d'abord vous interroger sur ce livre « Itinéraire d'un arabisant » où vous racontez votre cheminement personnel et intellectuel, vous rendez hommage notamment à vos maîtres comme Régis Blachère, dont les livres sont bien connus de tous les francophones qui apprennent l'arabe encore aujourd'hui. Et vous commencez ce récit par votre Languedoc natale. Vous avez beaucoup voyagé au cours de votre vie, mais finalement vous êtes resté fidèle à ses racines languedociennes.
Oh oui, bien sûr, et particulièrement à travers mon enfance et mon adolescence dans deux villages où mes parents étaient instituteurs. Et j'ai continué à nouer ce fil, tant et si bien qu'aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, j'essaie de finir un livre sur ces souvenirs précisément. Voilà.
Et alors, vous nous racontez votre itinéraire d'arabisant. À propos de la langue arabe, vous dites que c'est une langue qui vous a tant donné, en tenant à sa manière discrète ou de premier plan, une telle place dans toute une vie. C'est une langue que vous avez commencé à apprendre vers l'âge de 20 ans.
Oui, tout à fait. Très tard, autrement dit, oui. Et après force et hésitation entre les langues classiques et l'allemand aussi, qui m'a beaucoup captivé, jusqu'à traduire, il y a quelques années, le livret de Tristan et Isolde de Wagner.
À partir de quel moment avez-vous eu le sentiment d'être tout à fait à l'aise en langue arabe quand on commence à apprendre une langue à 20 ans?
Oh, ça m'a pris pas mal de temps, et je dirais que la date décisive a été le moment où, à mon retour d'Égypte, j'ai décidément choisi d'être universitaire plutôt que diplomate. Autrement dit, de faire de l'arabe non pas un moyen de carrière, mais une perspective de vie.
Et alors, vous rappelez que la culture arabe médiévale estimait qu'aucun savoir n'était valable si l'on ne veillait à sa possibilité d'être transmis. C'est la raison pour laquelle la transmission a été au cœur de votre vie, André Miquel?
Oui, je me suis finalement inspiré de loin, par-delà des siècles, de la tradition arabe qui désigne la culture sous le mot de adab, qui correspondrait à peu près à la culture de notre honnête homme d'Occident, enfin de France, parce que l'adab, c'est un condensé de savoir-faire, de savoir-dire et de savoir-savoir. Je veux dire, bien se comporter, s'exprimer clairement et ne pas faire figure d'érudit, mais plutôt de passeur.
André Miquel, vous dites avoir voulu aussi vous adresser aux Arabes, les inviter par-delà les troubles de l'heure à méditer sur leur propre passé, n'ayons pas peur des mots, ajoutez-vous, sur leurs valeurs. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux jeunes issus de l'immigration qui se posent des questions sur leur identité? Lire des textes arabes du Moyen-Âge, par exemple, cela peut les éclairer, apporter quelques réponses à leurs questions?
Oui, parce que je pense que la poésie, puisque je me suis vraiment attelé beaucoup et aux géographes arabes du Moyen-Âge et à la poésie, parce que la vision du monde autour de soi, d'une part, et la vision intérieure que l'on a de soi-même, la poésie d'autre part, peuvent créer et fortifier un juste regard sur la vie. Et j'ai voulu, dans toute mon œuvre, voir ce que le mot arabe voulait dire, comme définition.
Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce mot arabe, André Michel ?
Je veux dire être fidèle à une tradition de communication, de dialogue avec les autres peuples, y compris pour marquer des différences. Il me vient un vieux souvenir à travers mes géographes, lorsqu'ils parlent de l'Inde, ils redisent les propos des marchands qui commercent par là-bas et jusqu'à la Chine, et l'Inde les fascine parce que ils trouvent qu'en Inde, l'atmosphère est à la recherche d'un dieu, mais d'un dieu qui, je dirais, qui serait imparfait par rapport à celui de l'islam. Et c'est pour ça que j'avais dit, après les géographes, en formulant ce qui était le fond de leur pensée, que les Indiens, pour eux, étaient des musulmans à qui la grâce aurait manqué.
Pouvez-vous nous parler de vos recherches précisément sur les géographes arabes, des recherches qui devaient entrer dans le projet général d'une géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du XIe siècle? Quelle était la vision du monde de ces géographes arabes?
Oui, alors, l'ensemble fait 4 volumes qui se sont, et dans la rédaction, s'est étalé sur quelques 20 ans à peu près. Le premier voulait recaser, si j'ose dire, la géographie arabe dans le système culturel de l'époque, l'adab dont nous parlions. J'ai voulu montrer comment les géographes arabes avaient voulu intégrer cette science à la culture de l'honnête homme. Le second parlait de la vision du monde, de la terre et de l'étranger, des peuples étrangers. Le troisième tome du milieu naturel, les plantes, les arbres, le ciel, l'eau, etc. Et le quatrième, des activités humaines, voilà. Autrement dit, l'ensemble, pour moi, s'est bâti autour d'une idée fondamentale, comment les Arabes voient de cette époque. En gros, du milieu du 8e siècle au milieu du 11e, comment ont-ils vu le monde, comment ont-ils voulu le voir aussi, ce qui est au moins aussi important.
André Michel, vous avez travaillé sur Le Fou de Leïla, un poème qui a traversé les siècles et qui nous parle d'amour impossible et de folie. Pourquoi ce poème a-t-il autant compté dans votre vie ?
Donc, c'est une vieille aventure qui a débuté, je reviens à Wagner, avec Tristan et Iseut, de la légende du Moyen-Âge, passé ensuite en musique et en opéra, mais ce qui m'a fasciné dès le début, c'est que, avec Majnoun, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit que tout cela était né avec Majnoun, dans l'Arabie du 7e siècle. Cela veut dire quoi? Ça veut dire la création ou la mise par écrit de ce qui fait l'amour idéal, que je pourrais résumer en deux petites phrases. L'amour idéal parfait est impossible, et l'amour impossible est le seul qui soit parfait. Et ce thème a connu ensuite évidemment un large succès avec Roméo et Juliette, Tristan, Werther et tant d'autres.
André Michel, dans Itinéraire d'un arabisant, vous évoquez un drame familial, la perte de votre fils, un drame sur lequel vous avez écrit dans Le Fils interrompu, et vous écrivez que ce livre était à la fois un hommage à votre fils Pierre et un réconfort, une offrande à tous ceux qui avaient connu la même détresse devant la mort d'une part d'eux-mêmes et s'en étaient remis à une espérance de l'après. Est-ce que face à la pire des souffrances que peut éprouver un homme, la foi, votre foi, vous a permis de surmonter cette épreuve?
Oui, c'est une épreuve. C'est l'épreuve des épreuves. Voir mourir un garçon de 15 ans, atteint dans son corps, si bien qu'il faut lui couper une jambe, lui qui était si vivant, merveilleux, lycéen, attaché à la vie, etc. Et puis, cela emporte en effet une méditation. C'est vrai que pour n'importe quel parent ou pour n'importe quel être qui aimerait un enfant qu'il verrait disparaître, cela est une injustice et même un scandale. Et comment en sortir sinon en évoquant un autre ordre, celui général du monde qui échappe à notre compréhension, par où en effet on rejoint la foi telle que du moins je la vis, à savoir que dès qu'on croit imaginer ce qu'est l'au-delà, on est perdu. Il faut l'imaginer, en poser le principe et s'accrocher à cette conviction de toutes ses forces. Voilà.
La mort a été présente dans votre vie. C'est un sujet auquel vous pensez aussi à votre âge, quand on a plus de 90 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce moment qui arrive à chaque homme? Mais voilà, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur la mort?
Je vous dirais qu'à mon âge, surtout, cela consiste à se dire souvent, il y en a qui sont plus malheureux que moi et qui auraient bien voulu vivre avec le minimum de soucis de santé jusqu'à l'âge que j'ai. Et les petites décrépitudes qui arrivent au jour le jour avec ce corps qui peu à peu se délite et vous quitte sont le prix à payer, mais le juste prix, j'insiste là-dessus, pour une existence qui a essayé de servir à quelque chose ou à quelqu'un ou aux autres, pourquoi pas.
Vous dites dans votre livre qu'au moment où vous avez été professeur, vous avez beaucoup appris en discutant avec vos élèves.
Oh oui, j'ai appris beaucoup. Hein. Et puis, je dirais par tradition familiale, ma vieille maman, dans un vieil interview qu'elle avait donné, ou qu'on lui avait demandé à la radio, une radio montpelliéraine, avait expliqué sa vocation en disant enseigner, c'est une maternité multipliée. Et ma femme, qui elle-même a été professeure de lettres, aimait bien dire, pour enseigner, il faut être un malade de l'espoir. Je crois que c'est dans cet échange, en effet, que l'enseignement trouve toute sa place. Et il est vrai, si je me remémore mes dernières années d'université, je veux dire, celles où j'avais des étudiants tout près de moi, il est vrai que ce que j'en retire, c'est le merveilleux mot et la merveilleuse situation d'échange permanent.
André-Michel Orient Édition publie un beau volume illustré des fables de La Fontaine, intitulé « Les fables de La Fontaine en Orient ». Isabelle Sayer-Baudis, l'éditrice, a choisi de montrer dans ce livre les illustrations de ces fables réalisées par des artistes d'Égypte, de Perse, d'Abyssinie, de Chine, d'Inde et du Japon. Un trésor conservé au musée Jean de La Fontaine à Château-Thierry et qui n'avait encore jamais été révélé au grand public. C'est véritablement ce qu'on appelle un beau livre. J'imagine, vous qui aimez La Fontaine, vous avez été très ému en regardant ces illustrations.
Oui, comme bien vous pensez, parce que j'ai toujours pensé que La Fontaine, au-delà du fabuliste, était un humaniste. C'était un homme qui écrivait par-delà la morale, entre guillemets, qui écrivait pour évoquer la condition humaine. Et cela, a fourni une bonne partie aussi de ma recherche les premiers temps. Mais cela m'a repris il y a quelques années quand je me suis amusé, si j'ose dire, à prendre dans le recueil de Kalila et d'Ibna les fables donc transcrites en venant de l'Inde, de la Perse, transcrites en arabe, quand je me suis amusé à prendre quelques-unes des fables de ce recueil que n'avait pas connu La Fontaine et en faire des fables qu'il aurait pu écrire. voilà, dans un petit recueil qui s'appelle « La Fontaine à Bagdad » et édité par Madame Saya Boudis.
Et vous rappelez que Jean de La Fontaine s'est inspiré de Ibn al-Mukhaffa. C'est quelque chose qui est avéré.
Oui, bien sûr. Sauf que, oui, c'est vrai, mais pour La Fontaine, les deux inspirateurs sont Ésope et Phèdre. Il se trouve que la traduction en français des fables indo-persanes arabes d'Ibn al-Mukhaffa, il ne l'a connu que sur le tard, lorsque son recueil, à lui, était largement composé. Je ne sais plus à quelle époque, mais en tout cas très tard. Et donc, il n'a peut-être pas eu le temps d'en tirer tout ce qu'il voudrait. Mais il y en a quelques-unes que j'ai relevées au passage et qui sont restées célèbres dans le recueil de La Fontaine.
André Miquel, vous avez traduit de l'arabe toute votre vie. Vous avez été aussi à l'origine de la transformation de la Bibliothèque nationale. Il y a des trésors, des manuscrits dans cette Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, quand des jeunes arabisants viennent vous rencontrer, est-ce que vous leur donnez des pistes de recherche possibles, des traductions possibles? J'imagine qu'il y a un continent encore à découvrir dans ces manuscrits arabe.
Oh, je pense, mais là vous me prenez un peu de court parce que des étudiants et des chercheurs, je n'en ai plus depuis que j'ai quitté l'université en 1976, parce qu'au Collège de France, on n'a plus d'étudiants. On garde les chercheurs qui avaient entrepris des recherches avec vous pour les aider à finir leur thèse, mais on n'en prend pas de nouveau. Du moins, c'est extrêmement rare. Donc ce lien-là, c'est vrai, c'est rompu, mais si j'avais un conseil à leur donner, c'est d'aller en effet feuilleter, mais je n'ai plus en tête, à 92 ans, il y a si longtemps que j'étais à la Bibliothèque nationale, je ne m'en souviens plus très bien, mais je leur donnerai en effet le conseil de commencer par aller chercher du côté de la section des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale. Et là, pourquoi pas, à revenir aux plus vieux textes qui peuvent s'y trouver, et dont peut-être certains attendent d'être découverts et édités.
Aujourd'hui, vous êtes toujours en contact avec la langue arabe, vous feuilletez régulièrement votre dictionnaire, par exemple?
Oui, le dictionnaire, il me devient de plus en plus nécessaire parce que la mémoire, l'arabe n'a pas été pour moi une langue que j'ai apprise dès la naissance, elle est venue tard. Donc ensuite, je l'ai pratiquée au moins de façon universitaire avec les étudiants pour des interviews, des conférences, etc. Mais maintenant, comme je l'ai écrit, c'est une maîtresse toujours jeune qui me fait payer à moi le poids de la vieillesse et qui se retire peu à peu. Alors, heureusement, j'ai encore le dictionnaire et puis quelques souvenirs quand même qui rôdent de ci de là.
Merci André Miquel. Je rappelle que vous avez publié Itinéraire d'un arabisant chez Odile Jacob et vous avez préfacé chez Orient Édition un très bel ouvrage illustré par des artistes de nombreux pays, Les Fables de La Fontaine en Orient. Merci d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient.
Non, un grand merci à vous d'abord.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.